Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Les inégalités économiques et sociales, on en a beaucoup parlé dans cette émission et encore récemment, ne serait-ce qu'à cause du mouvement des Gilets jaunes. L'occasion, la nécessité presque d'en reparler, c'est la parution d'un livre qui nous l'impose. Pas n'importe quel livre, pas n'importe quel auteur. Ce livre s'intitule « Inégalité mondiale », il a un sous-titre « Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances ». Voilà la traduction, l'adaptation française plutôt, du titre original en anglais que je vous donne quand même, « Global Inequality, a new approach for the age of globalization ». Un livre paru en anglais donc en 2016, traduit déjà dans 15 langues et maintenant en français aux éditions La Découverte, traduit par Baptiste Milondon et dont vous êtes l'auteur, Branko Milanović, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Branko Milanović, vous êtes né à Belgrade et pendant 18 ans, jusqu'en 2001, vous avez été économiste à la Banque mondiale. Vous êtes ce qu'on appelle un visiting presidential professor à la City University de New York. Vous êtes aujourd'hui à Paris à l'invitation de l'école de commerce internationale Schema Business School et de l'école d'économie de Paris pour une série de conférences. Je vous remercie d'avoir dégagé un peu de temps pour RFI. Alors au cours de cette émission, bien sûr, des reportages comme d'habitude. Carole Valade nous attend à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Joël Bronner à Jakarta, en Indonésie, et Cécile Debarge à Palerme, en Sicile. Branko Milanović, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur les inégalités dans le monde? Pourquoi ce thème de recherche?
Mais vous savez, ce qui m'a amené à travailler, c'est... D'ailleurs, je travaille depuis, je ne me souviens plus, 30, 35 ans. Ma dissertation en Yougoslavie, je l'ai défendue à Belgrade, c'était sur les inégalités économiques en Yougoslavie. Maintenant, on le dit ex-Yougoslavie, mais à l'époque, c'était pas d'ex-Yougoslavie. J'étais toujours très intéressé par des questions sociales, et d'autre part, j'étais toujours intéressé par les statistiques et par les chiffres. Et vraiment, quand j'y pense maintenant, quand on, combine en quelque sorte quand, ces deux intérêts, un intérêt statistique et un intérêt social, vraiment, je ne suis pas surpris que vraiment j'étais très intéressé par des enquêtes de ménage, par les inégalités, par des trucs comme le coefficient de Gini et des choses pareilles.
Alors ça, le coefficient de Gini, on reviendra dessus probablement au cours de l'émission. Mais dans la Yougoslavie de l'époque, qui était un pays encore communiste, il y avait beaucoup d'inégalités parce que le communisme à l'époque prétendait abolir les inégalités.
Mais vous voyez, la Yougoslavie était un pays spécifique d'ailleurs. Comme vous le savez, c'était pas un pays communiste comme les autres, c'était un peu différent. Mais d'autre part, il y a des inégalités très importantes qui sont finalement amenées en quelque sorte, je pense, à l'éclatement de la Yougoslavie. C'est-à-dire, vous aviez des inégalités au sein des républiques qui étaient vraiment très minimes parce que justement, le système communiste vraiment ne permettait pas des inégalités très importantes. Mais d'autre part, les inégalités régionales qui, en grande mesure, ont été héritées, parce que, bien sûr, la Slovénie, avec son expérience beaucoup plus occidentale, était beaucoup plus riche, comme par exemple le Kosovo. Alors, quand vous mettez la Yougoslavie entière en commun, c'est un pays avec des inégalités relativement importantes.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Yougoslavie que vous devez quand même encore fréquenté, est un pays beaucoup plus inégal que celui que vous avez connu et décrit dans vos thèses?
Oui, toutes les républiques, maintenant bien sûr, qui sont des États indépendants, sont devenues un peu plus, certains beaucoup plus des pays inégaux qu'ils l'étaient auparavant.
C'est-à-dire que tant en Croatie qu'en Serbie, Kosovo, qu'en Slovénie, les inégalités se sont accrues.
Les inégalités se sont accrues, mais les inégalités ne se sont pas accrues également dans tous les pays. Par exemple, la Slovénie reste encore un pays aux inégalités très faibles. Elle est très similaire, par exemple, à Slovaquie, à l'Autriche, à Hongrie. C'est-à-dire, c'est très intéressant, vous avez ici 5 pays issus en quelque sorte de l'Empire austro-hongrois, très petit pays en général, avec des populations très homogènes de niveau d'éducation, de niveau de, culturel, etc., avec des inégalités parmi les moins élevées du monde.
C'est intéressant, mais pour beaucoup de monde, Branko Milanović, la globalisation, qui est un terme anglo-saxon qui figure dans le titre original de votre livre. La mondialisation, disons-nous en français, a été un puissant moteur de développement pour un certain nombre de pays comme la Chine, mais aussi un facteur aggravant les inégalités. Est-ce que cette vue des choses est fondée? Est-ce que les inégalités ont beaucoup augmenté depuis 30 ans dans le monde?
Vous savez, c'est une question très difficile parce qu'il y avait, comme vous le dites en quelque sorte, il y avait vraiment des changements énormes, mais c'était des changements qu'il est très difficile de résumer à un seul mot. Est-ce que les inégalités ont augmenté ou ont diminué? Parce que d'un côté, il y avait la création d'une classe moyenne mondiale qui n'existait auparavant. C'est grâce à la croissance de la Chine, de l'Indonésie, de l'Inde, de Thaïlande, de Vietnam. On oublie très souvent le Vietnam, mais vraiment c'est un pays qui a cru à des taux de croissance vraiment très, très impressionnants. Et ça a vraiment diminué les inégalités mondiales parce que ces pays étaient très pauvres, alors maintenant ils sont devenus beaucoup moins pauvres. Mais d'autre part, il y avait deux choses. Il y avait le creusement des classes moyennes occidentales. Et on peut penser, on peut pas vraiment prouver, mais on peut penser que vraiment, en quelque sorte, ces deux phénomènes sont liés. C'est-à-dire que l'augmentation des revenus et le succès de l'Asie, en quelque sorte, est vraiment lié au creusement des classes moyennes.
Qu'est-ce que vous appelez le creusement des classes moyennes? La baisse de pouvoir d'achat?
L'appauvrissement
des classes moyennes dans les pays riches?
C'était pas appauvrissement en tant que tel dans les pays riches, mais c'était l'absence de la croissance suffisante, très souvent une stagnation des revenus de classe moyenne. Alors c'est une contrepartie de l'augmentation des revenus asiatiques, c'est la stagnation des revenus de classe moyenne occidentale.
Alors vous êtes pas mal en France, beaucoup en France ces derniers temps, pour présenter votre livre, et pas seulement, pour discuter aussi avec des collègues comme Thomas Piketty, des collègues économistes. Vous avez été témoin probablement de ce mouvement qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez eu le temps d'y jeter un œil et de l'analyser un peu? Est-ce que ça rentre dans le cadre de vos analyses? Est-ce que ces inégalités qui sont dénoncées, cet abandon qui est dénoncé par ces Gilets jaunes de la part de l'État, rentre dans votre grille d'analyse?
Absolument, il rentre dans mon analyse parce que vraiment, il y a, et c'est pas seulement en France, bien sûr, les Gilets jaunes en France sont un élément qui est vraiment très clair et peut-être un peu, disons, extrême. Que je dis extrême, c'est pas par jugement. Je veux dire que la réaction française, disons, en quelque sorte, est plus importante d'envergure que, par exemple, peut-être la réaction italienne ou allemande. Mais il y a toujours un malaise des classes moyennes occidentales. Et pour terminer seulement l'autre question précédente, je voulais dire aussi qu'il y avait d'autre part un troisième groupe, c'est-à-dire parce qu'il y avait la croissance, disons, chinoise, asiatique, il y avait le manque de croissance des classes moyennes occidentales, mais il y avait vraiment une croissance très forte de ce qu'on appelle top 1%, c'est-à-dire les gens qui sont les plus riches, que ce soit en France, en Amérique, en Chine ou ailleurs.
Le 1% alors, le plus riche.
Les plus riches. Alors vraiment là, vous avez une image vraiment assez compliquée de changement, parce que si vous avez un malaise qui, à mon avis, est très clair dans les pays occidentaux, alors c'est un malaise, on n'est pas sûr vraiment, c'est un malaise envers peut-être la réussite des Asiatiques, mais c'est aussi un malaise pour avoir été laissé pour compte par leurs propres citoyens qui ont vraiment très bien fait durant la mondialisation.
Alors, je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais vous disiez qu'il y avait en quelque sorte un échange de richesses entre les classes moyennes occidentales et les pays asiatiques dont vous parliez, le Vietnam, la Chine, la Thaïlande, etc. Est-ce que les Gilets jaunes, les classes moyennes occidentales se sont appauvries à cause de la croissance des pays asiatiques?
Ouais, ça c'est la question vraiment très importante. Ils ne se sont pas appauvris. Je ne dirais pas qu'il y aurait un échange de richesse. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si vous aviez, je sais pas, trois choses à partager, alors ils ont pris deux et il ne vous reste qu'une seule chose. Le revenu international brut a augmenté, mais le fait que vraiment il a augmenté plus pour des pays de l'Asie que pour les pays occidentaux, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Le fait vraiment, par exemple, qu'on a pu délocaliser la production, qu'on a pu vraiment, et on peut le faire maintenant, on peut produire des choses, les mêmes choses, en Birmanie ou en Chine qu'on produit en France, et on les paye beaucoup moins, parce que bien sûr, les salaires sont beaucoup moins élevés. Alors, dans ce sens, oui, il y avait une concurrence, et c'est normal normal qu'il y ait une concurrence. Et c'est aussi normal que vous préférez payer quelqu'un, je sais pas, €2 par heure que de le payer $10 par heure. Alors là, je pense que c'était quelque chose qui est incontestable.
On va prendre un exemple tout de suite de ce phénomène de la pauvreté, des inégalités régionales, sociales, en allant en Italie. Le gouvernement d'extrême droite vient d'abattre une de ses cartes majeures. Le 6 mars dernier, les inscriptions pour prétendre au revenu de citoyenneté ont été ouvertes. Ce revenu de citoyenneté, c'est une mesure phare du programme du mouvement 5 étoiles et il ressemble par certains aspects à un revenu universel à destination des plus défavorisés. Cette mesure était très attendue dans le sud de l'Italie, qui concentre les plus grosses difficultés économiques et sociales du pays, historiquement, on le sait. Cependant, pour beaucoup, ce revenu de citoyenneté ne répond pas à la paupérisation croissante du territoire. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Cécile Debarge à Palerme.
Dans le petit centre d'assistance fiscale de la rue Mendola, dans un quartier populaire de Palerme, Pietro Guadalupo, le gérant, a enregistré 85 demandes le premier jour des inscriptions pour le revenu de citoyenneté, puis une dizaine par jour tout au plus.
Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant, pour être honnête, mais au final, pour moi, c'est un flop et les gens sont très sceptiques.
Pourtant, en Sicile, près de 55% des résidents présentent un risque de pauvreté ou d'exclusion. C'est le chiffre le plus élevé du pays. Au total, et à minima, 180 000 familles pourraient bénéficier du revenu de citoyenneté. Elles seront peut-être beaucoup moins.
Il y a beaucoup de chômage, mais aussi beaucoup de travail au noir, et les gens ont peur. Ils préfèrent gagner leur pain quotidien en travaillant au noir, plutôt que de faire une demande.
En théorie, et selon les déclarations politiques, les informations déclarées dans les dossiers seront vérifiées par la police. Surtout, pour Pietro Guadalupo, la mesure est mal comprise, et nombreux sont ceux à ne pas savoir s'ils y ont droit ou non.
Pour savoir quelles sont les personnes qui peuvent faire la demande, il faut regarder directement les revenus, et s'il est inférieur à 9 630 € par an, on peut faire la demande.
S'y ajoutent différents critères comme le montant du loyer à payer ou le nombre d'enfants à charge. En échange du revenu de citoyenneté d'un maximum de 780 € pour un célibataire et de 1 300 € pour une famille, le demandeur se doit d'accepter une offre de travail à un maximum de 100 puis 250 km de son lieu de résidence pour les deux premières offres ou partout sur le territoire italien pour la troisième. Un dispositif qui inquiète dans le sud du pays où les offres de travail sont peu nombreuses et le soutien des familles important dans l'organisation du quotidien.
Ça fait beaucoup de route. Je travaille déjà à Enna, une ville à une centaine de kilomètres d'ici. Je sais ce que c'est, je me lève à 5h du matin, je rentre à 21h. Donc ce serait le même sacrifice, sauf qu'ici je suis en famille. Là, s'il m'envoie à Rome, je serai tout seul. Et les prix de Rome, ce ne sont pas les mêmes qu'à Palerme.
Luca Trefiletti est un ingénieur aérospatial de 44 ans. Résident à Palerme, il est actuellement au chômage et va demander le revenu de citoyenneté. Il a lancé une petite entreprise à Enna l'année dernière et n'a pour le moment engrangé aucun revenu. Comme lui, entre 20 000 et 25 000 foyers pourraient demander le revenu de citoyenneté à Palerme. Ce chiffre est avancé par Giuseppe Mattina, l'adjoint aux services sociaux de la ville. Pour lui, au-delà de la polémique sur les conditions pour obtenir le revenu de citoyenneté, il faut surtout le coupler à un accompagnement social intense, sans quoi il échouera à résorber la pauvreté.
Il est nécessaire d'utiliser le revenu de citoyenneté pour affronter de manière globale les problèmes auxquels font face les familles. Parce qu'on ne doit pas uniquement s'occuper de la partie économique. Il faut expliquer à ces familles qu'on les prendra en charge, on les accompagnera pour emmener les enfants à l'école, pour payer le loyer, pour chercher du travail. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les convaincre de passer de l'illégalité à la légalité.
La ville vient d'embaucher 40 assistants sociaux pour faire face à la demande future.
Un reportage à Palerme signé Cécile Debarge dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI où nous parlons avec l'économiste Branko Milanovic de son livre Inégalité mondiale paru aux éditions La Découverte. Branko Milanovic, ce reportage, il présente une situation de pauvreté chronique. Est-ce que la vie de ces gens est affectée par la mondialisation ?
Vous savez, probablement qu'elle est affectée. D'ailleurs, les changements, ce qu'on voit en Italie, les changements politiques, c'est vraiment quelque sorte, c'est expliqué par la mondialisation. C'est expliqué aussi par, peut-être par l'intégration, c'est-à-dire par l'introduction de l'euro, très souvent on le dit en Italie, je ne suis pas un spécialiste en macroéconomie, alors je laisse ça de côté, et c'est expliqué aussi par les pressions de l'immigration. Alors, pour l'immigration, je voudrais seulement dire une chose, c'est, je la considère dans mon livre...
On va en parler tout à l'heure.
Oui, mais ouais. Je la considère en part, comme part de la mondialisation, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Mais à propos de l'Italie, vous voyez, ce qu'on voit maintenant à Palerme, on appelle le revenu de citoyenneté. Mais en vérité, quand on reçoit ce revenu, à condition qu'on ait un revenu, je pense que c'était mentionné, qui était
9 600 euros. Par an.
Mais alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle depuis des années, depuis des décennies, ça c'est vraiment l'assistance sociale conditionnelle. Alors en France, c'est revenu d'insertion, revenu moyen, minimal d'insertion. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, parce que vraiment, la citoyenneté, en théorie, devrait être vraiment une prime qu'on donne à tout le monde, sans égard de revenus.
Sans condition de ressources.
Oui. Non, et tout le monde, même ceux qui ont des ressources, parce que ça, c'était l'idée qui était vraiment introduite récemment.
Mais alors, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a des inégalités sociales, qu'il y a des inégalités régionales aussi. Et est-ce qu'il vaut mieux naître riche à Rome ou riche à Palerme? Pauvre à Rome ou pauvre à Palerme?
Non, c'est très clair qu'il est mieux d'être né riche à Rome. Et d'ailleurs, au niveau mondial, je le fais vraiment en regardant les revenus, bien sûr, de tous les pays, et pas seulement des pays, parce que ce n'est pas suffisant. Il faut regarder la distribution des revenus dans les pays, parce que, bien sûr, être riche dans un pays qui est relativement pauvre n'est pas la même chose qu'être riche, par exemple, à Paris ou dans un pays riche. Alors, ce que j'appelle la prime de citoyenneté, c'est-à-dire, c'est la prime qu'on reçoit quand on est vraiment né dans un pays riche et qui n'est pas fondamentalement différente d'une prime qu'on reçoit quand on est né dans une famille riche.
Mais alors, arrêtons-nous un instant sur cette prime de citoyenneté, parce que vous faites un barème, en gros, et le point zéro de ce barème, c'est le Congo.
Oui, j'utilise le Congo parce que c'est un pays très pauvre. Alors, par rapport...
Et auquel Congo pensez-vous? À la RDC?
Je pense à ce qu'on appelle Zaïre, c'est-à-dire
la RDC.
RDC, exactement. RDC, parce que bien sûr, c'est un pays très pauvre, c'est un pays très grand, etc. Je ne regarde pas seulement le Congo, je regarde la distribution dans le Congo. Alors, par rapport, par exemple, aux gens les plus pauvres congolais, vous pouvez calculer la prime de citoyenneté aussi en regardant le revenu des gens plus pauvres en Suède. Alors, on ne regarde pas les gens les plus riches en Suède avec les plus pauvres en Congo. On regarde qu'est-ce qu'une personne qui est pauvre en Suède, combien de fois cette personne a un revenu supérieur au revenu du Congo. Alors là, je pense que c'est très intéressant parce que ça vous donne immédiatement, ça pose immédiatement la question de migration. Parce que c'est très clair, si vous êtes pauvre au Congo et vous resterez pauvre en Suède ou en France, vous avez tout de même, vous allez gagner, disons, 5 fois, 10 fois, peut-être 15 fois plus d'argent en migrant.
Mais est-ce que dans ces revenus que touchent les gens pauvres dans les pays développés, vous incluez toutes les aides sociales, les infrastructures dont ils peuvent bénéficier, ou est-ce que vous prenez seulement en compte le revenu numéraire qu'ils touchent en travaillant ou en étant au chômage?
Normalement, dans les enquêtes, on prend seulement le revenu numéraire, mais le revenu numéraire inclut aussi des prestations sociales qu'on reçoit, et aussi les taxes qu'on paye. Mais il faut le dire, dans les pays pauvres, il n'y a vraiment rien d'autre qu'on reçoit, parce que l'infrastructure est très mauvaise, on ne reçoit pas il n'y a pas de prélèvement, on ne reçoit rien du gouvernement en termes monétaires. Alors vraiment, quand on commence à recevoir des choses du gouvernement, quand il y a un État qui fait la redistribution, c'est seulement dans les pays émergents, à une mesure un peu faible, et c'est surtout dans les pays riches.
Dans ce reportage de Cécile Debarge à Palerme qu'on entendait tout à l'heure, il était question de travail au noir. Donc le travail au noir, c'est le travail qui n'est pas déclaré, oui, sur lequel on ne paye pas des impôts. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez étudié la statistique. Sur quel chiffre avez-vous basé votre travail tout au long de ces 30 années? Est-ce que vous êtes sûr que vous arrivez vraiment à mesurer les écarts de richesse entre pays, entre classes sociales, entre populations?
Mais je pense qu'on les sous-estime. C'est-à-dire que des analyses que je fais, que les autres font, sont vraiment en quelque sorte une certaine sous-estimation des inégalités réelles qui existent. Et je pense qu'on les sous-estime parce que les riches, vraiment, très souvent, ne participent pas aux enquêtes, c'est la première chose.
Ils ne répondent pas,
ou ils vous donnent, par exemple, surtout sur le revenu du capital, ils vous donnent des montants qui sont beaucoup moindres que les montants réels. Bien sûr, on complémente ça avec les données fiscales, où là aussi, ils essaient bien sûr de diminuer les revenus pour qu'ils ne payent pas de d'impôts. Mais c'est un peu plus difficile de le faire qu'avec les enquêtes. Alors, en quelque sorte, je pense qu'on sous-estime les revenus des riches. Et en quelque sorte, je pense que ce qui est bien, c'est que nos données sur les inégalités qui démontrent une augmentation des inégalités au sein des pays eux-mêmes sont en quelque sorte sous-estimation. Alors, pourquoi je pense que c'est bien? Parce qu'on ne peut pas nous accuser à dire OK, vous surestimez. On est sûr qu'on sous-estime. Alors, la situation du point de vue d'inégalité est certainement pire, c'est-à-dire elle est plus grave qu'on ne le voit.
Branko Milanović, vous écrivez dans votre livre que nous ne mesurons pas à quel point la crise financière mondiale de 2008 représente une rupture majeure dans l'histoire économique du monde. À quel point est-ce que cette crise est importante? À quel point est-ce qu'on sous-estime son impact? À quel point est-ce que ça a été un tournant?
Oui, ça a été un tournant sans doute. D'ailleurs, il faut pas le dire, j'étais pas conscient que ce serait un tournant aussi important. Mais vous voyez ça en deux choses, à mon avis, peut-être qu'il y en a plus. Premièrement, le tournant vraiment n'a pas eu de retentissement, de l'influence immédiate sur la politique. Mais vraiment, c'est maintenant qu'on voit vraiment l'influence de ce tournant sur la politique. Maintenant, dans les deux dernières années, trois années, avec tous les changements que tout le monde connaît, que ce soit Brexit, Gilets jaunes, Trump, etc. OK. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est que tournant aussi fait, il a mis en relief vraiment la différence entre les pays d'Asie, les pays émergents, et l'Occident. Parce que on oublie très souvent, bien sûr, les pays d'Asie, vraiment, le taux de croissance s'est décéléré un peu, mais ils ont continué à croître à 6%, 8%, l'Inde maintenant croît à 10%. Alors vraiment, il n'y avait pas tellement, c'était une crise, d'ailleurs je l'appelle, une crise nord-atlantique. Parce que c'était pas une crise globale, en vérité. Il y avait bien sûr du fait que les États-Unis et l'Europe occidentale, l'Union européenne, sont très importante, il y avait un effet sur les autres, mais je pense que c'est un effet qui était relativement modeste et que les autres ont continué à croire.
Donc, ça a accru, ça a compensé les inégalités d'une certaine manière, cette crise.
Ah oui, c'est vrai, mais ça a compensé les inégalités parce que, bien sûr, les pays d'Asie sont plus pauvres que les pays occidentaux, mais ça a mis en relief parmi les populations occidentales le fait qu'il y avait vraiment un changement très important du pouvoir économique qui est en train de se faire dans le monde actuellement, et ça a aussi mis en relief pour les populations occidentales qu'il y avait un groupe de gens dans leur pays, que ce soit 1%, que ce soit 5%, etc., qui vraiment se sont accommodés très bien à la mondialisation.
Vous parlez d'un nouveau capitalisme différent du précédent, oui. De l'ancien. Alors, comment définiriez-vous l'ancien capitalisme et qu'est-ce que c'est que ce nouveau capitalisme?
Je voudrais vraiment aller pas dans toutes les définitions, mais je peux dire qu'il y a, disons, on peut parler de trois capitalismes. Il y a le capitalisme classique, tout le monde le connaît. Il y a les capitalistes, ils sont riches, ils n'ont que le revenu du capital, et les ouvriers, ils sont pauvres, ils travaillent, etc. C'est très, très clair.
Ça, c'est le Zola.
19e siècle. C'est Zola, exactement. C'est le 19e siècle. Mais il y avait le capitalisme social-démocrate, que vraiment aussi on connaît très bien, qui existe en Europe avec un État welfare state,
avec un État protecteur
qui était très important, avec beaucoup de redistribution, avec des impôts très importants, avec une augmentation de niveau d'éducation de la population très très important, et avec des inégalités qui étaient relativement limitées. Et maintenant vraiment on est dans un troisième état, l'égalité qui sont beaucoup plus forte, il y avait un changement de perspectives et des intérêts entre les classes riches qui ont vraiment un intérêt pour que la mondialisation telle qu'on la connaît maintenant continue, et les classes moyennes qui vraiment se trouvent, ou les classes ouvrières, ou je sais pas quoi, qui se trouvent vraiment mises à l'écart. Alors vraiment ça, il y a des changements là très importants. Le dernier changement que je voudrais mentionner, c'est que vous avez maintenant parmi des riches, vous avez des gens qui ont des revenus très importants du travail. C'est-à-dire techniquement, ce sont des travailleurs, ce sont pas seulement des capitalistes. Alors dans ce sens, vous pouvez dire que oui, ça c'est très bien. Mais d'autre part, ils combinent en l'air même pour personne deux sources de revenus, capital et le travail. Et vraiment, c'est très difficile maintenant de dire est-ce qu'on est vraiment capitaliste, est-ce qu'on est travailleur, est-ce que vraiment il faudrait augmenter des impôts pour des gens qui travaillent beaucoup des heures, c'est-à-dire ils travaillent durement. Alors vraiment, c'est un nouveau capitalisme dans ce sens-là.
Vous parlez de l'apparition d'une classe de ploutocrates. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont des gens qui sont bien sûr très riches. Ce sont des gens qui ont, ou ils ont hérité de l'argent, mais beaucoup d'entre eux, ils ont devenu riches en travaillant et en ayant la chance de travailler pour des entreprises financières et les autres, où ils sont très bien rémunérés. Ensuite, ils utilisent cet argent pour investir, encore être plus riches.
Et finalement, vous pensez aux traders, par exemple?
Oui, exactement.
Aux banquiers?
Les banquiers, le secteur financier, tous ces gens, vraiment, il y en a pas mal. À Paris ou Londres, et bien sûr, ils sont localisés dans les grandes villes, ils ne sont pas dans les villages. Et alors là, pourquoi je pense qu'il y a un danger de ploutocratie? Parce que ces gens-là, comme une certaine classe, bien sûr, essayent de garder leur position prépondérante, importante, etc. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Vous le faites en contrôlant le processus politique et en contrôlant en quelque sorte l'idéologie qui explique ce processus politique. Alors là, je pense que c'est un danger parce que au fur et à mesure que nos politiques deviennent vraiment contrôlées par des riches, ces politiques vont renforcer le pouvoir économique des riches.
Et vous expliquez aussi que, par exemple, ces riches-là ne s'intéressent pas aux services publics. Et que ça pourrait expliquer, par exemple, je repense encore à ce mouvement des Gilets jaunes qui se plaignent d'un abandon par l'administration, de la disparition des services publics. Est-ce que c'est ce phénomène qu'on observe en France et ailleurs?
Bien sûr, on n'observe pas en France ça d'une manière aussi aiguë, aussi claire que dans les pays émergents. Mais je veux dire, par exemple, quand vous dites que les riches, très souvent, vraiment, ils ne s'intéressent pas aux services publics.
Non, c'est vous qui le dites.
Non, c'est moi qui le dis, absolument. Alors, je pense très souvent que ce n'est pas tellement différent de ce qu'on a constaté, disons, il y a 20 ans, 30 ans, dans les pays comme Brésil. Alors, vous vous demandez pourquoi en Brésil, par exemple, les riches n'intéressent ni à l'éducation publique, ni, par exemple, à l'infrastructure publique. Parce qu'ils se disent, OK, je m'en fous de l'infrastructure publique, parce que si j'ai mon propre réseau d'électricité, si j'ai mon propre antenne pour l'Internet et Wi-Fi, et si j'ai des écoles primaires, élémentaires, crèches, n'importe quoi, pour les enfants qui sont privés, pourquoi est-ce que je paierais des impôts pour des trucs publics? Parce que je n'utilise rien de public. Alors je pense que c'est là ce qu'on appelle en Amérique « gated communities ». Il y a le danger vraiment que les riches...
Les communautés fermées
totalement,
protégées par des grilles.
On ne vit plus ensemble avec les autres, bien sûr, dans une ville grande comme Paris. Oh, il y a bien sûr des quartiers qui sont très différents. Mais en théorie, tout de même, on se rencontre. Vous vous rencontrez dans le métro, vous vous rencontrez dans la rue, etc. Mais quand vous vivez dans une communauté qui sont séparées, même physiquement, vous n'avez vraiment presque aucun intérêt pour des trucs publics.
Branko Milanovic, vous êtes l'invité des Codiciers Co d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de votre livre « Inégalité mondiale, le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances » publié aux éditions La Découverte. Tout à l'heure, nous parlions du Congo. On va reparler de l'Afrique maintenant avec un exemple d'inégalité en Côte d'Ivoire, où depuis une dizaine d'années, la croissance économique est qualifiée d'insolente. Pourtant, selon les dernières statistiques connues, 46% des Ivoiriens vivent encore sous le seuil de pauvreté contre 51% en 2011, donc très peu de progrès, loin de ce qui pouvait être attendu pour une économie qui a progressé beaucoup depuis 2012, estime le dernier rapport de la Banque mondiale, votre ancien employeur. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Carole Valade à Abidjan.
La tour de l'hôtel Ivoire surplombe la lagune. À ses pieds, Seydou Maïga vend son café 100 francs la tasse.
Voilà, c'est ça qu'on fait ici un peu. On se débrouille un peu quoi. On a sauté le sario pendant un an, deux ans.
C'est vrai qu'ici, comme on est en face du Sofitel, vous voyez, j'imagine, passer beaucoup de gens très riches aussi qui sont là.
On n'approche pas, ils rentrent.
Ils s'arrêtent pas à prendre le café ?
Non, ils s'arrêtent pas à prendre le café. Et là, ils ne prennent pas notre café. Il y a des cafés dedans qui coûtent. Bon, moi-même, je ne sais pas, on m'a dit que ça coûte 3 000, 5 000. Voilà.
Ses clients, des chauffeurs de taxi comme Modeste, 53 ans, dont 25 au volant de sa voiture.
C'est un système de location, c'est-à-dire on travaille pour les autres. Ceux qui ont les moyens, ils achètent sa voiture et puis bon, ben, toi tu travailles. Il y a des jours où tu trouves pour lui et puis bon, tu trouves pour carburant et puis tu sors zéro. Un exemple, j'ai au moins 40 000. J'ai fait mon plein, 20 000. Et puis, je dois verser 17 000 au propriétaire. Est-ce que 3 000 francs, ça ne vaut même pas la popote ? À plus forte raison, payer maison. Vous n'allez pas garder de côté. C'est impossible parce que y a un proverbe qui dit chez nous, c'est quand c'est rempli que ça peut déborder.
Avec ses 3 000 francs, soit un peu moins de 5 dollars pour deux jours, Modeste vit mieux que la moitié de ses compatriotes. Et pourtant...
Matin, je prends mon café. Ça, c'est mon petit déjeuner. À midi aussi, même chose. Et puis, bon, ben, le soir... C'est ce qu'on appelle un coup KO. Hein.
C'est quoi un coup KO?
C'est pour dire que si la nourriture est cuite à 16 heures, on en mange, on attend demain encore à 16 heures.
Un coup KO, c'est un repas par jour.
Voilà.
Mais pourtant, la Côte d'Ivoire s'est plus développée pendant ces années. Il y a eu beaucoup de croissance. Pourquoi ça ne s'est pas amélioré pour vous?
Bon, c'est la question que nous-mêmes, on se pose. Nous ne sommes pas des économistes, mais nous, quand on se regarde, on se dit que c'est mal partagé.
Ça arrive chez moi.
C'est chez vous ici?
Oui, c'est ici que j'habite.
Ah, on peut rentrer?
Oui.
Bonjour.
On te salue, viens dire bonjour, faut pas avoir peur. On dit bonjour tonton.
Oui, tonton.
Voilà mes enfants. Voilà, ici c'est différent, ici c'est Yopougon. Et vous-même, vous voyez les bâtiments, constructions, les rues.
Et à côté de ça, à Cocody ou alors dans d'autres quartiers, à Marcory, tout ça, il y a des grandes villas.
Vous avez vu là-bas, c'est des duplexes. C'est des gens, comme on le dit, les uns et les autres, c'est les uns qui vivent là-bas. Nous sommes les autres.
Les uns, comme dit Modeste, ce sont les clients de Joël Williams. Son agence de communication et son magazine Milk sont spécialisés dans le secteur du luxe.
Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas forcément une industrie qui était développée ici en Côte d'Ivoire. Par exemple, au niveau de la restauration, on a passé le cap de chercher à se nourrir. Maintenant, on cherche à se faire plaisir avec des saveurs différentes. Donc,
par exemple, là où on se trouve en ce moment.
C'est un restaurant japonais qui doit avoir un peu moins d'un an. La Côte d'Ivoire est un des plus gros consommateurs de champagne. Je pense que c'est le coupé des cas. Et leur slogan, c'était « cigare, champagne, caviar ». Et du coup, la consommation de champagne est devenue quelque chose d'élégant. Ça se voit aussi au niveau de l'immobilier, parce qu'on a des immeubles qui poussent un peu partout dans la ville et qui montrent cette floraison de l'économie ivoirienne.
Comment vous voyez la Côte d'Ivoire dans 10 ans?
Les Ivoiriens aiment bien dire la Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis d'Afrique. Et si ça continue comme ça, on sera vraiment parmi les premiers pays d'Afrique économiquement.
Après, les États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités sociales aussi.
Oui, bon. Mais en termes de développement, c'est dans ce sens-là.
Un reportage à Abidjan très illustratif, signé Carole Valade. Dans ce reportage, Branko Milanovic, on entendait un chauffeur de taxi qui s'appelle Modeste expliquer qu'il n'était pas économiste et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'argent, les revenus, la progression du pays n'étaient pas bien répartis, qu'il n'en profitait pas autant que ces gens qui consomment du champagne dans des restaurants japonais. Alors, vous êtes économiste, qu'est-ce que vous répondez à Modeste? Qu'est-ce que vous lui dites à ce chauffeur de taxi ivoirien qui n'a qu'un repas par jour?
Mais vous savez, je pense que Modeste a raison, parce que vraiment ce qu'il dit dans ce moment, il dit que vraiment la question c'est comment est-ce qu'on partage ça. Je savais que la Côte d'Ivoire avait vraiment de taux de croissance très importants de 6%, 7%.
Même plus. Hein.
Même plus. Mais il semble, d'ailleurs je connais pas les chiffres de Côte d'Ivoire, même s'ils ont des enquêtes de ménage régulièrement, que la distribution vraiment des fruits de la croissance était très unilatérale en quelque sorte, c'est-à-dire peut-être la majorité vraiment des gains ont été appropriés par le top, parce que les gens de au top 1% ou 5%, je pense qu'il y a vraiment là un partage. Mais vous voyez, l'autre gars qui parlait, alors il a dit, et ça c'est très souvent les choses qu'on entend. Il dit, OK, maintenant on est en train vraiment de devenir l'Amérique de l'Afrique. Alors, il faudrait que la croissance continue, c'est-à-dire, maintenant, on va s'engager sur la croissance et on va répartir des choses plus tard. Oui, parce que en vérité, ça ne marche pas comme ça. Où le manque de croissance mène à des problèmes politiques, on le voit par exemple en Algérie maintenant, où mène aux problèmes politiques qui vraiment alors arrêtent la croissance, où finalement on ne partage rien, jamais, parce que vraiment il n'y a pas des institutions qui permettraient ce partage. Alors je pense que c'est un peu, disons, naïf ou illusoire, ou peut-être ça sert les intérêts de ceux qui le disent, de dire vraiment maintenant on fait travailler, on devient plus riche, et pour partager, pour répartition, on va attendre demain ou après-demain ou quelque chose pareil.
Vous dites dans votre livre, Branko Milanović, que de très fortes inégalités finissent par devenir insoutenables. C'est un peu ce que vous aviez expliqué au début de l'émission en parlant de votre pays, l'ex-Yougoslavie. C'est un peu ce que vous venez de dire au sujet de l'Algérie aussi, brièvement. Mais vous dites aussi que ça ne se réduit pas tout seul, qu'il y a des guerres, des révolutions qui font chuter ces inégalités. Est-ce qu'il faut en arriver à une guerre pour réduire ce problème d'inégalité?
Non, c'est très clair. D'ailleurs, j'ai fait l'allusion à un travail de Walter Scheidel qui dit vraiment...
Et qui est-ce?
Il est un historien du monde ancien qui enseigne à Stanford, mais qui s'occupe aussi des inégalités dans le monde ancien. Et maintenant, il a des opinions, bien sûr, sur l'inégalité dans un long terme historique. Mais je suis pas d'accord avec lui, parce que vraiment, vous prenez l'exemple de l'Europe et des États-Unis. Alors, ce qui est arrivé, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu une augmentation très importante au niveau de l'éducation, une augmentation de revenus qui était vraiment parfois de 4 fois, parfois 5 fois, même en Italie de 7 fois. Et vous avez eu aussi, en même temps, la réduction des inégalités, des très forts mouvements syndicaux, etc. Alors, il n'est pas vrai que vous ne pouvez réduire les inégalités qu'en ayant des révolutions ou des changements violents. Il y a vraiment beaucoup de changements, surtout l'éducation.
Mais je vous interromps parce que vous évoquez longuement le début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale, et vous expliquez qu'elle a été provoquée par les inégalités, par la mauvaise distribution du pouvoir d'achat.
Oui, mais d'avant que je ne parle de la Première Guerre mondiale, je voudrais seulement terminer pour que ce soit très clair qu'il est vraiment faux, à mon avis, de croire que la seule possibilité de réduire les inégalités se trouve dans les mouvements violents, dans la révolution et des choses pareilles. Ça, c'est, à mon avis, très clair. Il y a pas mal d'exemples qui prouvent que ce n'est pas vrai. À propos de la Première Guerre mondiale, oui, j'ai utilisé là des travaux, par exemple, de Hobson, un économiste anglais de début du XXe siècle, et aussi de Rosa Luxemburg, comme on sait. Et
Rosa Luxemburg, c'était une dirigeante révolutionnaire allemande.
Dirigeante révolutionnaire allemande.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Début du XXe siècle, d'ailleurs assassinée ensuite au début de la Révolution allemande. Et finalement, Vladimir Lénine, qui était bien sûr l'originateur de la Révolution russe. Alors, mais avant d'être politicien comme Lénine est devenu, il est aussi un écrivain, c'est-à-dire un écrivain qui écrivait des études sociologiques. Alors, ces trois personnages, Hobson, Rosa Luxemburg et Lénine, ils se sont influencés les uns les autres, mais vraiment, il y avait une idée qui était très forte, et je pense qu'on la retrouve chez Hobson, que les beaucoup trop fortes inégalités dans les pays riches, surtout en Angleterre, Royaume-Uni, vraiment signifiait qu'il n'y avait pas de demande suffisante, parce que les classes moyennes, les classes ouvrières, vraiment n'avaient pas une demande suffisante pour les produits, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, les riches, la seule façon vraiment d'utiliser et de leur propre argent, de l'investir et de faire un profit, c'était vraiment d'aller investir ailleurs, en Afrique, en Asie ou quelque part d'autre. Alors, dans cette époque-là, quand vous investissez en Asie ou en Afrique, vous ne contrôlez pas ces pays parce qu'il n'y avait pas fonds monétaire international, il n'y avait pas l'Organisation mondiale de commerce, il n'y avait rien. Alors, comment est-ce que vous les contrôlez? Vous les contrôlez en vraiment les colonisant, c'est-à-dire vous les contrôlez militairement et physiquement, en quelque sorte, vous contrôlez le pays. Et si tout le monde fait ça, c'est ton idée, si l'Allemagne fait ça, que la France fasse ça, que l'Italie, et bien sûr l'Angleterre, alors vous avez des conflits. Alors ces conflits, un jour, mènent la guerre. Alors ça, c'était l'idée. Mais que vous voyez, au début, cette idée, il y a ce qu'on appelle en anglais, en français, on peut l'appeler comme ça, c'est mal distribution, c'est-à-dire une mauvaise distribution de revenus qui est vraiment une distribution très inégale.
On va prendre un peu de recul, Branko Milanović. Vous citez beaucoup, et ça, d'ailleurs ça fait la couverture de votre livre, un de vos confrères économistes, prix Nobel en 1971, Kuznets. Hein, qui est un Biélorusse, qui est émigré aux États-Unis après. Et vous citez sa courbe, la courbe de Kuznets, que tous les étudiants en économie apprennent à connaître dans les premières années de leurs études, et qui décrit un cycle de montée puis de baisse des inégalités. Et vous la revisitez. Parlez-nous de ce travail sur cette courbe, qui est quelque chose de théorique, mais qui aide à comprendre sur la durée ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé.
Vous savez, Kuznets l'a défini dans les années 50, début des années 60. Alors, ce qu'il a remarqué à l'époque, et il avait très peu de données par rapport à ce qu'on a actuellement, il a remarqué que la période de l'industrialisation, c'est un peu comme votre reportage de Côte d'Ivoire. Alors, il y avait une très forte augmentation des inégalités, mais il disait aussi que au fur et à mesure que d'abord que ces inégalités proviennent de la migration de la population rurale dans les villes, les différences entre les revenus dans les villes sont beaucoup plus larges, et bien sûr les certains gens vraiment s'enrichissent tandis que beaucoup d'autres gens vraiment restent à des niveaux de revenus qu'ils avaient avant. Mais il a aussi remarqué, il disait, ok, mais ça doit être réajusté parce qu'il y aura le manque de la main-d'œuvre qui est prête à travailler à ces, disons, salaires très minimes. Il y aura l'augmentation de l'éducation. Il y aura la partie moindre que le capital, qui est très inégalement réparti, qu'il prendrait dans le total. Alors, peut-être qu'on va, il a pensé, qu'on va avoir une réduction des inégalités un peu d'une façon automatique. Alors d'ailleurs, je critiquais cette façon automatique parce que vraiment, on n'obtient pas des réductions automatiquement. Mais il y a aussi la pression politique, il y a l'augmentation des revenus qui vous pousse à avoir, par exemple, à donner des pensions de retraite à des gens qui sont âgés, etc. Alors je pense, ça c'était l'idée. Et je amplifie cette idée en disant que Kuznets n'a observé qu'une courbe qui a bien sûr duré dans une période entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 80, mais que maintenant on est en train de vivre la deuxième courbe de Kuznets avec l'augmentation des inégalités qu'on voit maintenant.
Alors, vous parliez de migration en citant Kuznets. On va s'intéresser à un pays où le phénomène migratoire n'est pas anecdotique, c'est l'Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé du monde avec plus de 250 millions d'habitants. Selon les chiffres de la Banque mondiale, les Indonésiens étaient plus de 9 millions à travailler à l'étranger, soit 7% de la population active. Une partie de cette main-d'œuvre sans permis de travail sert de variable d'ajustement économique dans les pays voisins, comme la Malaisie. Écoutez ce reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Joël Brenner à Jakarta.
Prendre la mer, franchir une frontière et partir travailler à l'étranger pour un meilleur salaire. C'est le choix que font de nombreux travailleurs indonésiens peu qualifiés, en particulier ceux issus de villages pauvres de Sumatra ou Bornéo, proche de la Malaisie, ce pays voisin qui partage la même langue. Wahyu Suskilo, 50 ans, est directeur de l'ONG indonésienne Migrant Care.
In Malacca Strait and in Sabah Sea, yeah.
Si l'on prend l'exemple du détroit de Malacca ou de la mer autour de la ville de Sabah au nord de Bornéo, les migrants économiques rejoignent principalement la Malaisie à l'aide de petits bateaux. Il est vrai que l'Indonésie et la Malaisie effectuent des patrouilles dans ces eaux via une police des frontières. Mais vous savez, ces fonctionnaires sont faciles à corrompre.
Un passeport d'un pays de l'ASEAN permet en théorie d'entrer facilement sur le territoire malaisien en toute légalité. Mais beaucoup de ces travailleurs pauvres n'ont pas de tels papiers. De plus, sans permis de travail, impossible en théorie de gagner sa vie. Alors pour ces travailleurs indonésiens, il s'agit de circuler le plus discrètement possible, car s'ils tombent sur la police, ils risquent le retour à leur case départ.
Jusqu'à présent, en Malaisie, il y a deux poids, deux mesures. Le pays a par exemple besoin d'une main-d'œuvre de travailleurs immigrés, avec ou sans papier, pour la récolte de ses plusieurs millions d'hectares de plantations d'huile de palme. Mais une fois cette récolte achevée, des opérations de police sont mises en place pour arrêter les travailleurs illégaux et les renvoyer dans leur pays d'origine.
En Indonésie, la majorité des hommes partis travailler à l'étranger se tournent vers l'agriculture, la pêche, la construction ou encore les transports. Les femmes, elles, se consacrent le plus souvent à l'aide à domicile. La partie illégale de ces flux migratoires représente une aubaine pour les passeurs et autres intermédiaires douteux, explique Khadija Chamoussoul de l'organisation malaisienne Migrants 88.
Les lois contre la traite de personnes ou les employeurs peu scrupuleux ne sont pas appliquées avec beaucoup de rigueur en Malaisie. De plus, en cas de problème, les travailleurs étrangers n'ont souvent nulle part où aller demander de l'aide. Les criminaliser ne fait que renforcer le cercle vicieux dans lequel ils se trouvent déjà.
À écouter les ONG d'Asie du Sud-Est qui les défendent, l'encadrement des travailleurs qui émigrent devrait, dans un monde idéal, être un service public plutôt qu'un business. Pour ne pas laisser aux trafiquants la gestion d'une importante partie du flux des travailleurs venus d'ailleurs.
Un reportage signé Joël Bronner à Jakarta dans Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Branko Milanovic, dans votre livre « Inégalité mondiale, chez la découverte », vous dites que le capital circule mais pas la main-d'œuvre. Ce reportage semble dire le contraire.
Oui, la main-d'œuvre circule aussi, mais vraiment, vous voyez comment il circule. Alors, on circule vraiment en quelque sorte illégalement. On est sujet à toutes les traitements qui étaient vraiment extrêmement durs. On vous accepte là pendant la saison où on a besoin de la main-d'œuvre. Ensuite, on le fout dehors.
Il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup frappé dans cet ouvrage que vous publiez donc en français. C'est le passage où vous évoquez les murs, la construction de murs pour séparer riches et pauvres. Et vous évoquez par exemple, alors c'est une région dont on parle assez peu finalement dans cette émission, c'est le mur construit par Israël pour séparer les Israéliens et Palestiniens. Et vous y voyez des raisons non seulement politique, mais aussi économique, et c'est très peu souvent dit, ça.
Oui, maintenant on en parle un peu plus, parce que bien sûr il y avait le mur que Trump voudrait construire contre
le Mexique,
mais qui déjà a été construit en partie, bien sûr, avant lui. Mais là, dans le livre, vraiment, je pense à l'époque, c'était pas tellement connu, que quand vous regardez vous essayez de trouver dans le monde des pays proximes, c'est-à-dire des pays qui ont
des pays proches de
frontières communes, ou vraiment, comme le cas d'Indonésie et Malaisie, des pays qui sont vraiment séparés par vraiment très peu de distance, de distance dans ce cas.
Par bras de mer,
comme par exemple aussi Maroc et Espagne, etc. Alors, vous mettez tous ces pays et vous trouvez vraiment les points où la différence de revenus moyenne entre ces pays qui sont limitrophes, n'est-ce pas, est moindre. Alors, c'est extraordinaire que dans tous ces cas, vous avez des murs, de ce qu'on appelle les barbelés, vraiment pour garder les populations séparées. Et bien sûr, Israël et Palestine ou le Gaza, vraiment, c'est un cas où la différence de revenus. Et d'ailleurs, on a des données parce que l'autorité palestinienne est vraiment, ils font très très souvent des recensements, etc. Et on a aussi des données sur les populations arabes en Israël. Et vraiment, les chiffres sont extraordinaires parce que c'est une différence de 10 ans. Et bien sûr, si vous avez une différence de 10 ans, ne considérant même pas des autres questions politiques, on connaît, il y en a pas mal, alors comment est-ce que vous allez ménager ces choses-là, à moins que vous n'ayez pas vraiment une espèce de mur ou une espèce de contrôle. Et d'ailleurs, je vous donne encore des autres exemples. Alors, oui. L'Inde et le Bangladesh, ils font la même chose. C'est-à-dire, l'Inde a construit vraiment un barrage contre le Bangladesh et l'Arabie Saoudite a construit avant la guerre un barrage contre le Yémen. Alors vraiment, c'est très clair.
Eh bien, c'est sur ces histoires de murs que se termine cette émission, Branko Milanovic. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je rappelle le titre de votre livre, Inégalité mondiale aux éditions La Découverte. Mention qui est évidemment sur la page internet de Eco d'ici, Eco d'ailleurs, sur RFI.fr. Vous pouvez nous suivre aussi sur l'application Pure Radio sur votre téléphone portable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.